Chers amis, chers frères et sœurs, voici une histoire vraie à propos de courage. La famille Duncan était bien connue dans toute cette région de l'ouest du Kentucky où elle était installée depuis longtemps. Le père avait le renom d'un homme courageux qui n'hésitait pas à prendre la défense de quelqu'un lorsque sa cause était juste. Le fils, Félix, avait souvent entendu parler des exploits de son père et pendant longtemps il en avait été fier. Entre autres, les vieux du pays aimaient raconter comment M. Duncan, un jour, avait désarmé deux voyous venus dans le but de tuer son frère. Une autre fois, sans armes, il avait arrêté un assassin en fuite. Mais l'admiration que Félix avait pour son père prit brusquement fin un jour. Il était injustement accusé de vol par M. Caldwell, un marchand d'un bourg voisin. En colère, il rentra chez lui, s'attendant à ce que son père bondisse pour prendre sa défense et exiger des réparations. Mais les yeux bleus du père s'assombrirent juste un instant. Puis il répondit avec beaucoup de calme. « Non, mon enfant. Ceux qui te connaissent ne croiront jamais ce Caldwell qui t'accuse. Et dans ce coin de forêt, tout le monde connaît notre famille. » Déçu par la réaction de son père, le sentiment d'admiration que Félix avait à son égard s'écroula en un instant et fit place à l'image d'un homme plutôt lâche. Au fil du temps, les relations entre le fils et son père devinrent de plus en plus tendues, et quand quelqu'un racontait encore un acte de courage de M. Duncan, le fils tournait le dos et s'en allait. Cela dura plusieurs années jusqu'en 1917. Félix était parti travailler en Californie, et il était juste rentré dire au revoir à ses parents avant de s'engager dans l'armée qui recrutait au moment où les États-Unis entraient dans la guerre. Un soir, durant cette brève visite, Félix était en train de bavarder avec quelques amis lorsque soudain, deux coups de feu partirent aux abords d'un quartier où vivaient beaucoup d'hommes noirs. Félix se précipita vers l'endroit où déjà une foule nombreuse commençait à s'exciter. Des bruits sans aucun fondement se répandirent à une vitesse folle, disant qu'il y avait eu une bagarre entre des soldats et des hommes noirs et que des coups de feu avaient été tirés à partir d'une boutique appartenant à Sam Mason, un homme noir respecté, et que notamment M. Duncan tenait en haute estime. Toujours selon ces bruits, un homme blanc avait été tué et d'autres blessés. La réalité que la foule ignorait était tout autre. Il s'agissait d'une simple bagarre entre deux soldats et une balle perdue avait blessé le pied d'un passant. Devant la haine de plus en plus violente de ceux qui s'attroupaient devant sa boutique, M. Mason s'était discrètement esquivé. Pour les gens excités, Sam Mason était entièrement coupable parce que le coup était parti du côté de sa boutique et on criait déjà au lynchage. Le shérif arriva sur les lieux, armé d'un fusil de chasse et d'un pistolet. Mais même s'il ne voulait pas accorder foi aux cris de la foule, il eut bien du mal à calmer les esprits. « Où est Sam Mason » demanda-t-il. « Il est parti se terrer chez lui !» cria quelqu'un. Et devant l'hésitation du shérif, il poursuivit. « Il n'y a qu'à aller le chercher !» Félix réalisa qu'un drame terrible allait se jouer devant ses yeux. Lorsque soudain, un homme se fraya un passage au milieu des gens. C'était M. Duncan. Il posa sa main sur l'épaule de son fils et dit simplement « Viens avec moi. » Tous deux se faufilèrent discrètement à travers la foule et se dirigèrent rapidement vers un ravin en contrebas où habitait Sam Mason. Le père frappa à la porte et dit à Madame Mason, tremblante de peur, d'aller chercher son mari. « Mais ils vont le tuer, Monsieur Duncan, » répondit-elle. « Certainement, » dit le père de Félix, « s'il reste ici. Mais rien n'arrivera à aucun de vous si vous faites ce que je vous dis. » Puis il demanda à Sam de le suivre. D'abord, celui-ci voulut s'enfuir, mais M. Duncan lui dit calmement « S'ils descendent ici et découvrent que vous êtes parti, Dieu sait ce qui arrivera à votre famille. Et s'ils nous attrapent, ils vous pendront, et moi avec probablement. » Alors les deux hommes, d'un pas décidé, montèrent vers la foule qui attendait et s'impatientait. Comme ils émergeaient du ravin, quelqu'un les vit et se mit à crier « Le voilà !» Et tous ensemble, ils se précipitèrent jusqu'au bord du ravin. Le shérif pointa son fusil sur Sam Mason et dit à M. Duncan « Je vais m'occuper de lui. » De sa main gauche, le père de Félix abaissa le canon du fusil et d'une voix calme et froide dit « Vous n'avez pas eu le cran d'aller le chercher vous-même. Eh bien maintenant, vous ne l'aurez pas. Ôtez-vous de mon chemin. » Il écarta le shérif et la foule les laissa passer. Il se dirigea vers le tribunal et dit à son fils d'aller chercher le juge. Peu de temps après, il expliqua devant une salle de justice comble ce qui s'était passé en concluant « Ce serait un crime de mettre Sam Mason en prison cette nuit. La foule forcerait les grilles et le lyncherait. Il faut le mettre quelque part où il soit en sécurité. Mais où ?» Devant le grondement menaçant de la foule, il se tourna vers le juge. « Chez moi, dit-il, il sera en sécurité. Aucun de ceux qui sont ici n'oserait toucher à ma porte. » Un silence très lourd suivit ces paroles, mais pas une seule voix ne s'éleva pour relever le défi. « Je crois que vous avez raison, dit le juge. Je remets le prisonnier entre vos mains. Ramenez-le ici demain matin à 9h. » Pour la seconde fois, ils traversèrent la foule. Cette nuit-là, Sam Mason dormit chez les Duncans, sans se douter probablement que les portes n'étaient même pas verrouillées. Le lendemain, il n'y avait qu'une poignée de personnes au tribunal. On ne put relever aucune charge contre l'accusé et M. Mason sortit libre et la tête haute. Ce jour-là, Félix comprit que le vrai courage ne consiste pas à venger telle ou telle insulte qui peut nous être faite, mais à défendre le faible lorsqu'il est innocent devant la vindicte populaire. Il le dit à son père en ajoutant « C'est seulement maintenant que je comprends ce que veut dire le mot « courage ». Le père donna une tape amicale dans le dos de son fils. « Je savais bien, dit-il simplement, qu'un jour tu comprendrais. » Ah, mes amis, il y a des occasions exceptionnelles où le courage de cet homme a été manifesté. Mais nous pouvons être persuadés qu'il avait aussi une attitude de courage dans tous les moments et les domaines de la vie. Même vis-à-vis de son fils qui, faussement, changeait d'avis à son sujet. Il a eu le courage de ne rien dire, confiant qu'un jour ou l'autre, il serait amené à comprendre et que les choses s'arrangeraient. Plus que jamais aujourd'hui, il y a besoin de gens de courage, qui tiennent bon des principes, des valeurs, même en période d'adversité, qui sont prêts à maintenir des convictions et à résister, même si la foule est menaçante, même si la majorité est contre et hostile, qui croient qu'un bon témoignage, un bon comportement finira toujours par porter du fruit, par être reconnu, même s'il y a des mensonges et des accusations fausses pour l'instant. Le courage, d'autant plus ferme qu'il s'appuie sur le Seigneur et sur sa parole. Le courage de porter un bon témoignage pour Jésus-Christ et de saisir les occasions pour cela, favorables ou non. Le courage de tenir ferme, de tenir bon, dans l'esprit de prière, la méditation de la parole de Dieu, dans l'attachement aux réunions autant que possible. Aujourd'hui, la tentation qui guette les croyants, c'est de se laisser aller, de se trouver des raisons pour se laisser progressivement gagner par la négligence spirituelle, de s'habituer progressivement à ces manques qui ont été imposés par la situation exceptionnelle que nous traversons. C'est toujours plus facile de se laisser glisser dans le sens de la plus grande pente, surtout quand personne n'est là pour vérifier ce que vous faites et qu'il est tellement commode de se trouver des excuses et des justifications. Ceux qui sont courageux vont réagir face à cela avec la plus grande fermeté. Souvenons-nous du prophète Daniel. Pendant toute cette période où il était interdit, dans l'Empire, d'adresser des prières à un autre qu'au roi, sous peine de mort. Il en est question dans le chapitre 6 du livre de Daniel. Il aurait pu se dire qu'il allait, comme on dirait aujourd'hui, faire un break de quelques semaines et qu'il reprendrait la prière plus tard. Ou il aurait pu se dire qu'il allait user de grande discrétion, prier discrètement, se relever d'un coup si quelqu'un arrivait en se faisant semblant de rien. Mais Daniel a agi courageusement et avec fermeté pour préserver sa communion avec Dieu et son témoignage. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a puissamment exaucé et lui a donné de si grandes délivrances. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas aussi grave d'un côté, mais d'un autre, l'attaque est aussi insidieuse, car l'objectif qu'il a, l'adversaire a, est de nous faire progressivement déchoir de notre fermeté, de nous faire perdre la garde du bon dépôt, de nous faire abandonner petit à petit l'amour pour la parole de Dieu et l'amour pour l'Église, l'amour pour l'Assemblée. Mes frères et sœurs, mes amis, il nous faut réellement du courage pour voir notre propre état en face, pour prendre ou reprendre les positions spirituelles nécessaires, pour les traduire en actes, en décisions, en choix, pratiques, allant plus loin que simplement les intentions. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui cherchent en premier le royaume de Dieu et sa justice, dont les besoins seront admirablement pourvus et qui iront dans le ciel de gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est en introduction ce témoignage, ce récit tout à fait exemplaire. Et nous voudrions maintenant ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Mais avant cela, prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, de ce que tu es encore aujourd'hui fidèle, présent et agissant. Tu es toujours le même Dieu, tu ne changes pas. Les circonstances dans lesquelles nous sommes peuvent changer, peuvent être bouleversantes d'une façon ou d'une autre, mais combien il est bon de se tourner vers toi, de se confier en toi, de s'attacher à toi qui es le rocher des siècles et qui est véritablement celui dont la parole s'accomplit pleinement, dont les promesses se réalisent, dont les annonces s'accomplissent aussi. Merci notre Sauveur, sois loué, sois béni, et merci aussi pour ce que tu veux nous enseigner par ta parole. Pour notre bien et pour notre salut, tu visites et tu bénis chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc, avons-nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 18, nous lisons à partir du verset 9. Il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je relis au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Voilà. Maintenant, notre deuxième texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, et au verset 1er, nous lirons juste le début pour l'instant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Voyez-vous, dans les deux cas, il est question d'hommes qui montent au temple pour prier. Mais la ressemblance s'arrête là, car les résultats de la prière sont tout différents dans les deux cas. Et d'ailleurs aussi le contenu et l'esprit de la prière dans les deux cas. Et nous pouvons voir en fait, dans ces deux passages, trois sortes de prières successives et différentes. D'une part, la prière du pharisien, d'autre part, la prière du publicain, et enfin, la prière de Pierre et de Jean. Et nous verrons que ces trois prières différentes ont un sujet commun, la justification. Le fait d'être justifié, suivant ce que le Seigneur Jésus dit dans le verset 14, où il dit que l'un est reparti justifié plutôt que l'autre. Que veut donc dire être justifié ? C'est que Dieu nous considère comme juste. Et ceci est très important et a de très grandes conséquences. Vous avez l'approbation de Dieu, sa bénédiction sur nos vies quand on est justifié. Il y a aussi la réponse aux prières, l'exaucement. Il y a la guérison, la délivrance et le soulagement divin. Et puis évidemment, la justification amène à pouvoir entrer dans le royaume de gloire, à pouvoir être bénéficiaire du salut éternel. Et c'est d'ailleurs le sujet du contexte, c'est-à-dire des passages qui précèdent et qui suivent celui-là. Du verset 1 au verset 8, vous avez la parabole de la veuve et du juge unique, pour montrer l'importance de la prière et de la persévérance dans la foi pour être justifié. Et je relis simplement, non pas tout ce passage-là, mais le verset 7 qui nous dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ?» Et lorsque vous regardez le contexte suivant, du verset 15 au verset 17, Il est question de Jésus bénissant les petits-enfants qu'on lui amène pour montrer à tous, l'importance de la foi et de la simplicité comme les petits-enfants pour entrer dans le ciel et être sauvés. Considérons donc maintenant successivement ces trois sortes de prières. En premier, la prière du pharisien. Nous relisons les versets 11 et 12 du chapitre 18. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors, c'est une prière mauvaise, faite par un homme qui pense être près de Dieu, mais qui est en réalité bien loin de lui. Il s'illusionne beaucoup. Considérez que c'est tout d'abord une prière debout. C'est ce qu'il dit au début du verset 11, le pharisien debout. On pourrait aussi traduire le pharisien à part. Cet homme se met en avant. Il se présente devant Dieu, rempli de confiance en lui-même et en ce qu'il peut apporter. C'est un homme qui se considère comme meilleur que la plupart et qui, au lieu de prier Dieu, en fait, de se tourner vers Dieu, est en réalité entièrement tourné sur lui-même, en train de s'examiner lui-même et de se discerner un brevet de bonne conduite et d'autosatisfaction. Remarquez bien, il est debout, il ne plie pas les genoux, il ne s'abaisse pas devant Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu, très certainement, au lieu de le secourir, de l'aider, va lui résister, comme il le fait d'ailleurs à l'égard de tous les orgueilleux. Et puis, c'est une prière aussi en lui-même, est-il dit au verset 11, c'est bien précisé. Il ne prononce pas une telle prière à voix haute. Il sent bien que beaucoup le jugeraient et le traiteraient d'orgueilleux s'il faisait ainsi. Certainement, ces prières à voix haute devaient avoir des apparences beaucoup plus humbles, car il prenait garde à l'opinion de ceux qui l'entouraient. Mais Jésus, qui connaît toutes choses, dévoile sa prière intérieure. Ce n'est pas en fait ce que nous montrons aux autres qui est la réalité et la valeur de notre personne. C'est ce que nous sommes dans nos pensées. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Beaucoup montrent de belles apparences, mais si on connaissait ce qu'ils font dans les ténèbres, si on savait ce qu'ils pensent en eux-mêmes, et c'est pourquoi le jugement de Dieu est tellement clair et redoutable en même temps, et c'est pourquoi nous avons tellement besoin de nous humilier devant Dieu. Et puis malgré tout, considérez que cette prière énonce des vérités. Dans ce verset 11 spécialement, nous voyons qu'il connaît bien la nature humaine. Oh, il ne la décrit pas comme victime de la société. Il ne va pas parler des gens du monde comme de pauvres malheureux à l'hérédité chargée. Il ne parle pas d'eux comme ayant eu à subir des circonstances traumatisantes dans le passé qui pourraient les excuser. Mais il parle de leur péché. Il dit qu'ils sont injustes et commettent chaque jour toutes sortes d'injustices en paroles et en actes. Il dit qu'ils sont ravisseurs et que dès qu'ils peuvent s'emparer de quelque chose qui ne leur appartient pas avec un minimum de risque, ils se précipitent. Pas vu, pas pris, telle est leur devise. Parmi les faits divers relatés par un quotidien se trouvait l'information suivante. Gérant d'un parc de pédalos sur les bords d'un lac de montagne, un jeune homme surveille les évolutions de ses clients lorsqu'il voit soudain un nageur en difficulté, un autre jeune homme, qui est en fait en train de se noyer. Se lançant à l'eau, il gagne à la nage le lieu de l'accident et doit plonger à plusieurs reprises avant de pouvoir saisir la victime et la ramener sur le rivage. Là, le jeune noyé est ranimé une première fois, puis il s'évanouit de nouveau avant d'être confié aux soins des pompiers parvenus entre-temps sur les lieux. Remis sur pied, celui-ci s'éloigne alors sans même un mot de remerciement pour son sauveteur. Ce dernier n'est d'ailleurs pas au bout de sa surprise ou de ses peines, car il peut alors s'apercevoir que ses clients ont déserté les pédalos et sont partis sans payer, profitant de cette opportune diversion. Et le journaliste de conclure « drôle de monde ». Drôle de monde en effet, et drôle de société, constituée de beaucoup de drôles de gens, ayant reçu souvent une drôle d'éducation. Mais peut-il encore en être autrement? Faut-il s'en étonner? On ne peut à la fois semer l'égoïsme et l'irrespect dans les cœurs à longueur de temps, puis récolter l'altruisme et le dévouement dans des actes ponctuels, instinctifs. Il peut d'ailleurs parfois être utile de se demander quelle aurait été notre propre réaction en une telle situation. Celle de celui qui a plongé en risquant sa vie ou de ceux qui sont partis sans payer. Ce sont les petits faits, gestes et attitudes quotidiens qui répondent en réalité pour chacun. Mieux vaut prendre et donner de bonnes habitudes dès le départ et à chaque instant. Car face à l'histoire des hommes et à sa propre conscience, et surtout devant Dieu, qui rendra à chacun selon ses actes, mieux vaut être celui qui a sauvé que ceux qui ont volé. Et puis, notre homme, dans sa prière, d'ajouter encore fort justement que ses semblables sont adultères, en actes ou en désirs, car celui qui convoite a déjà commis un adultère dans son cœur, dit le Seigneur lui-même. Et ainsi leur cœur est rempli de convoitise, de rapine et de méchanceté. En fait, le monde se divise en deux catégories. Celle de ceux qui ont fait le mal et se sont fait prendre, parce que moins chanceux ou moins malins. Et ceux qui font le mal ne se sont pas encore fait prendre. Mais les deux sont condamnables et seront condamnés un jour ou l'autre, tôt ou tard, et au grand jugement. Combien l'homme est donc pécheur et a donc profondément besoin de se repentir et de venir à Christ pour être pardonné et également justifié. Et puis, que dire encore à propos de cette prière, toujours d'après le verset 11 ? C'est une prière qui se met à part pour juger autrui, qui se met à l'extérieur, qui se met au-dessus. Une chose est d'énoncer des vérités sur la mauvaise nature des hommes en général et d'en tirer des conclusions pour soi-même en ce qui concerne la repentance. Une autre est de se mettre à part et de juger autrui sans savoir, en particulier quand il s'agit d'un autre croyant. Et c'est là qu'apparaît encore pleinement cet orgueil qui ne peut qu'amener ensuite la condamnation de Dieu. Et combien la parole de Dieu doit nous convaincre de nous courber devant lui si nous voulons être pardonnés et bénis. Et puis voyez, considérez encore un cinquième point, c'est que cette prière s'appuie avec satisfaction sur ce qu'on peut appeler de bonnes œuvres. Et là nous passons au verset 12, et voilà les bonnes choses que cet homme cite à son propre sujet, à son propre cas. Il n'est pas ravisseur, il n'est pas voleur. Il ne devait probablement avoir jamais rien volé de sa vie. Il n'est pas injuste, mais dans ses actes et ses paroles, il devait toujours avoir fait les plus grands efforts pour appliquer autant que possible la plus stricte justice. Du moins, c'est ce qu'on peut penser. Il n'est pas adultère, mais devait avoir combattu avec énergie contre la pensée même, contre le regard qui peuvent amener à cette terrible convoitise. Il jeûne deux fois par semaine, montrant par là son désir de glorifier Dieu dans son corps et de lutter spirituellement. Il donne la dîme de tous ses revenus et il pense ainsi glorifier également Dieu dans ses biens et manifester son désintéressement. Combien un tel homme peut être considéré comme admirable sur cette terre ? Et certainement on le mettrait parmi l'élite morale du pays. Et pourtant, il n'est ni sauvé, ni justifié, puisque cette justice à laquelle il se raccroche est parfaitement insuffisante devant les exigences de sainteté et de perfection de Dieu. Que d'hommes qui font pourtant le même raisonnement, qui imaginent être sauvés de la même façon, alors qu'en réalité ils sont perdus, loin du Sauveur, parce qu'ils se satisfont de leur propre justice, qui est totalement insuffisante devant le Dieu Saint. Et puis, voyez justement, au verset 14, une dernière chose à propos de cette prière, c'est qu'en fait, elle n'amène pas à la justification. Pas de salut, pas de miséricorde divine, pas de pardon, pas d'exaucement, pas de délivrance, pas de vie éternelle, pas de nouvelle naissance, pas de plénitude du Saint-Esprit. Quelle triste position! Comme il nous faut fuir toute attitude de propre satisfaction devant Dieu. L'Écriture nous appelle à nettoyer nos mains, pécheurs, à purifier nos cœurs, hommes irrésolus, à s'humilier devant Dieu en étant dans le deuil et dans les larmes à cause de nos désobéissances et manquements. Mais nous voulons voir pour cela maintenant une voie plus excellente et c'est ce qui nous amène à la prière du publicain dont il est parlé au verset 13. Que je relis donc. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, dit le Seigneur, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voyez donc là une bien meilleure prière pour s'approcher de Dieu et obtenir de sa part la justification, quoi qu'en pense le pharisien et peut-être même d'ailleurs le publicain à ce moment-là. Relevons les caractères excellents et parfaitement imitables de cette prière. Tout d'abord, une prière consciente de son indignité, comme il dit au verset 13. C'est ce qui fait dès le départ la différence entre la prière du publicain et celle du pharisien. Le dernier était en réalité aveugle sur son état, s'illusionnait de plus en plus, mais le publicain a une idée juste de ce qu'il est en comparaison de Dieu. À cause de sa nature pécheresse, à cause de son être pétri et envahi de péché, à cause de sa vie qui est un ratage selon les normes divines, il sait qu'il est indigne et le montre et le proclame dès le début de sa prière. En même temps, nous voyons qu'il s'agit d'une prière qui vient d'un cœur humilié. Il est bon de le rappeler, de le préciser, car il en est qui, conscients de leur indignité, peuvent devenir à cause de cela désespérés, défiants, arrogants, rebelles même, se disant que puisqu'ils ne sont pas dignes des bénédictions de Dieu, ils vont donc s'opposer à lui. Puisqu'ils ne peuvent rien avoir de son côté, peut-être, pensent-ils, vont-ils avoir quelque chose du côté de l'adversaire. Et c'est ainsi que beaucoup fanfaronnent, mais c'est une voie évidemment sans issue qui ne mène qu'à l'abîme du désespoir. Mais voici un homme qui, ayant réalisé sa culpabilité, son manque de mérite, son impureté, se soumet à la volonté de Dieu, croit à la bonté de Dieu et est ainsi poussé à la repentance. Ah, certainement, Dieu ne rejettera pas le cœur brisé et contrit. Et voyez encore que cette prière vient d'un cœur qui s'humilie encore. Non seulement il s'est humilié déjà, mais il s'abaisse plus encore devant Dieu. C'est un processus que celui de l'humiliation. L'orgueil est tenace. C'est un serpent qui résiste aux pas les plus lourds qui l'écraseraient. Les souliers de fer de l'humilité doivent le piétiner continuellement. Dès que l'humiliation cesse, l'orgueil relève la tête et vient à nouveau mordre et injecter son venin. La simple pensée « n'ai-je pas été assez humilié, ne puis-je pas arrêter maintenant ?» est une preuve que cet orgueil est à nouveau en train de s'élever et a besoin d'un grand coup d'humiliation pour nous garder dans de bonnes dispositions. Et ceci nous parle aussi d'une prière de culpabilité confessée. Cet homme reconnaît entièrement son péché. Il ne cherche pas de circonstances atténuantes. Il ne dit pas les choses en lui-même, comme le précédent, mais il les confesse de sa bouche. Ah, cette conviction de péché, Dieu n'y résiste pas. Et nous voyons que cet homme aussi va en tirer les conséquences pour se repentir devant Dieu et pour changer. Béni soit cet homme et béni soit le Seigneur, bien sûr. Et puis, c'est une prière ensuite que nous voyons en se frappant à la poitrine. Toujours dans ce verset 13, en se donnant des coups sur le cœur, qui est ainsi reconnu comme mauvais et siège du péché, tortueux par-dessus tout et méchant. Car c'est du cœur de l'homme que sortent les jalousies, les adultères, les mauvaises pensées et toutes les autres choses mauvaises qui sont ensuite mises en pratique par le corps et font que l'homme marche dans le péché. Ces coups répétés qu'il se donne sur le cœur montrent aussi qu'il se considère comme vraiment digne de mort et de perdition. Il accepte pleinement le verdict de Dieu sur le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et chaque fois qu'il se frappe le cœur, c'est donc pour reconnaître cela. En même temps, cette prière fait appel à la grâce de Dieu. Oui, il n'est pas la question de mérite. Il n'est pas la question d'un homme qui est très satisfait de lui, qui se décrirait avec complaisance devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur n'a rien à faire de cela. Ce serait plutôt l'irriter que de parler ainsi. Mais c'est un homme qui sait qu'il ne mérite rien de bon, qu'il ne mérite que le châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'est une loi draconienne? Et d'où nous vient cette appellation? Le législateur athénien Dracon avait été chargé, vers 600 ans avant Jésus-Christ, de dresser un code de loi. Jusqu'alors, faute de lois écrites, le peuple était à la merci de la noblesse. On lui demanderait plus tard pourquoi il avait ordonné la peine de mort pour toutes les fautes. C'est parce que, répondit-il, les plus petites m'ont paru dignes de mort et que je n'ai pu trouver d'autres punitions pour les plus grandes. Une loi draconienne, c'est une loi d'une rigueur implacable. À première vue, le début du texte de la Bible cité en tête donc semble draconien. En pratiquant le péché, tout ce qu'on gagne, c'est la mort. Il est marqué « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. Aucun être humain n'est juste par même un seul. » C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 23, verset 23, verset 10. « Le salaire, la rétribution du mal que nous avons commis, c'est la mort. Non pas seulement la mort physique, mais le fait d'être privé de la gloire de Dieu et du ciel. Or, voilà la merveilleuse nouvelle que nous devons croire de tout notre cœur. C'est que Dieu donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont unis à lui par la foi. Ce n'est donc pas une loi draconienne qui nous est imposée, mais une grâce incomparable qui est offerte à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient aux promesses de Dieu. Cette grâce, la voulez-vous? Cette grâce, voulez-vous la recevoir ce soir? » Voilà. Cet homme, donc, a cru en la bonté, en la patience, en la miséricorde, en la générosité, en la lenteur à la colère, en la grâce de Dieu. Auprès d'un simple homme, même le meilleur, une telle demande, de telles circonstances serait sans espoir. Mais le Seigneur, lui, est miséricordieux et compatissant, et celui qui adresse cette prière le sait. Et puis voyons encore que sa prière est aussi adressée avec persévérance. Le temps du verbe qui est employé, l'imparfait donc, comme d'ailleurs la brièveté de la prière, de la formule, nous laisse comprendre que cet homme ne l'a pas dit qu'une fois. Mais certainement chaque fois qu'il devait ainsi se frapper la poitrine, nous avons besoin de persévérance. C'est ce qui nous est dit aussi dans les versets 7 et 8, rappelez-vous, dans le contexte juste précédent. La persévérance accompagne la foi. Nous voyons donc que cette prière va dans la bonne direction, mais elle nous laisse cependant un goût d'inachevé. Dans le verset 14, il nous est dit qu'il fut justifié plus tôt que l'autre. Cela veut dire que la justification n'est pas encore complète. En quelque sorte, on pourrait résumer les choses exprimées dans ce texte de cette façon. Le pharisien ne voyait en lui-même que le juste, le publicain ne voyait en lui-même que le pécheur. S'il en manquait plus au premier, il manquait tout de même quelque chose d'indispensable au publicain. Et c'est pour ça qu'il nous faut considérer notre passage d'Actes chapitre 3 maintenant, qui nous parle de la prière de Pierre et de Jean, car il nous montre l'assurance et les certitudes de la foi. Lisons ensemble maintenant non plus seulement le verset 1, du troisième chapitre des Actes, mais tous les suivants jusqu'au verset 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple « Homme israélite, Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Nous arrêterons là ce beau passage. Voici donc, comme on nous dit, la meilleure des prières, puisqu'il nous est expliqué qu'ils ont été exaucés avant même d'être entrés dans le temple. C'est une prière en commun. Ces deux hommes montent ensemble. Au contraire des deux précédents qui étaient dans le temple, mais qui étaient séparés, d'ailleurs même l'un jugeait l'autre. Vous savez, la promesse particulière qui est donnée à ceux qui s'accordent pour demander une chose quelconque au nom du Seigneur voit ici sa réalisation. Il y a bien sûr nécessité de la prière individuelle. C'est quelque chose de tout à fait indispensable. Mais nous avons aussi cette nécessité de la prière en commun qui est mise en évidence ici. Ensuite, une deuxième chose, voici une prière accompagnée d'assurance et de justification. Ils viennent au temple non pas pour être sauvés et justifiés, mais parce qu'ils sont sauvés et justifiés, ayant reçu Christ dans leur cœur et le suivant. Et c'est ce qui fait que sur le chemin du temple, ils peuvent montrer cette joie et cette foi. Quelle différence, là encore, avec les deux précédents ? Considérez également qu'il s'agit d'une prière dans un nom puissant. Ce n'est pas n'importe quel nom qu'ils invoquent. Ce n'est pas pour la gloire de n'importe qui, mais c'est au nom du Seigneur, de celui qui domine toutes choses, qui habite dans les lieux élevés, dont le nom est saint, et qui cependant est avec le cœur contrit et humilié. Oui, c'est au nom de Jésus qu'ils prient avec cette grande foi. Et c'est parce qu'ils prient et agissent au nom de Jésus et pour sa gloire qu'ils peuvent avoir une telle assurance de la foi. Cette prière qu'ils expriment est aussi accompagnée d'assurance du pardon et de salut, et aussi bien sûr d'une prédication claire et sans équivoque à ce sujet. Et voilà encore une condition vitale à l'exaucement et à la bénédiction, que ce soit autrefois ou maintenant même. Une cinquième chose encore, c'est que cette prière est accompagnée d'un don total pour Christ. Vous voyez que ces hommes n'ont pas seulement donné la dîme, comme le pharisien, mais ils ont donné la totalité de ce qu'ils avaient. « Je n'ai ni argent ni or, dit l'apôtre, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et c'est ce qui fait que le Seigneur répond à leur prière. Pourvoit à tous leurs besoins, selon sa richesse, avec grâce et avec gloire en Jésus-Christ. Et ceux qui donnent leur vie entière au Seigneur Jésus ne le regretteront pas. Combien ils s'en réjouiront et combien ils s'en féliciteront. Voyez encore que ces hommes connaissent la vanité, l'insuffisance de leur propre piété et de leur propre puissance. Ils attribuent tout le mérite à Dieu et non pas à eux-mêmes. Au contraire du pharisien dont nous parlions tout à l'heure. L'apôtre Paul disait « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et non pas « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Enfin, ils mettent le doigt sur le plus grand des péchés. Du verset 13 au verset 15, ils appuient et ils insistent sur le fait de ne pas avoir reçu Jésus-Christ comme ce qu'il est, comme le sauveur de gloire, de l'avoir rejeté, de l'avoir condamné. Et c'est cela la raison de la perdition. Et c'est cela, de la perdition de leurs auditeurs. Et c'est cela l'empêchement majeur à l'action de Dieu dans leur vie, tant qu'ils en restent à ce point. Et c'est pour cela, aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de rappeler que c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui est au centre de toute véritable foi. C'est cela qui nous amène à une vraie repentance, à un vrai changement et à une vraie bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est pour cela combien il est important que chacune et chacun d'entre nous réalise cela, saisisse cela, de façon à faire monter vers le Seigneur une véritable prière qui soit acceptée par lui. Déjà avec l'esprit de repentance et de foi qu'il y avait dans la prière du publicain. Cette prière humble mais sincère, cette prière confessant son état, confessant son insuffisance, confessant son indignité, mais faisant appel puissamment à la grâce du Seigneur. Et puis ensuite, eh bien, oui, une fois qu'on a reçu ces grâces divines, eh bien, quelle joie de pouvoir avoir aussi cette assurance que le Seigneur veut agir, exaucer et secourir dans tous les besoins, quels qu'ils puissent être. Il est tout puissant pour accomplir encore des miracles. Prions, prions encore maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. C'est encore pour nous un grand privilège que de pouvoir prendre connaissance de l'Évangile, qui est le trésor le plus précieux qui puisse être. Et ceux qui ont cet évangile dans leur cœur, bien, ils ont tout ce qu'il faut pour la vie, pour la piété et pour toute leur éternité. Et merci Seigneur parce que eh bien, tu nous aides chacun à saisir ce trésor, à l'appliquer dans notre vie, à nous tourner vers toi en sincérité, en réalité, en profondeur de tout notre cœur, de tout notre être. Oui Seigneur, qu'il puisse en être ainsi et que soit béni, que soit puissamment sauvé ceux qui, à l'écoute de cette parole, le font maintenant. Merci Seigneur pour ta grâce que tu mets encore sur leur vie. Sois loué, sois glorifié notre Dieu. Amen. Amen. Voilà nos amis, eh bien, il me reste simplement à vous rappeler que nous pensons reprendre, Dieu voulant, notre culte à l'église dimanche qui vient, c'est-à-dire le 19 juillet à 9h45. Donc tout cela pour ceux qui se sont inscrits. Il y a encore possibilité de s'inscrire, mais il faut le faire très rapidement et pour ce dimanche-là, mais aussi de s'inscrire pour le 26, c'est-à-dire pour participer à ce moment-là au deuxième groupe. Donc, le deuxième groupe qui se constituera pour dimanche prochain, dimanche le 26. N'oubliez pas votre masque, la prédication sera mise en ligne pour ce deuxième groupe. Je vous rappelle également la réunion de prière du mercredi à 20h15 à la salle. Là, il n'y a pas besoin de s'inscrire, tout le monde peut venir librement. Et pour le vendredi soir, eh bien, nous continuerons encore avec le témoignage et la prédication mise en ligne pour le moment. Cette semaine qui vient de passer, qui est en train de finir, il y a eu un programme d'activité à Besançon. La semaine prochaine, rien de spécial n'est prévu. Mais la semaine suivante, ça dure en gros du 28 au 30 juillet, le même programme que du 6 au 8 juillet est planifié pour ceux qui veulent y participer. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous soutienne en lui. Amen.